VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à Bangui, 13h à Bujumbura. Bonjour à tous. Le gouvernement du Burkina a démissionné lundi pour faire place à la nouvelle équipe de Roch Marc Christian Kabore, le président nouvellement élu qui entre en fonction ce mardi à Ouagadougou. Le premier ministre Yacouba Isaac Zida a rendu sa démission et celle de son gouvernement, indique un communiqué. Après le premier ministre, les parlementaires du Conseil national de la transition ont également présenté leur démission. Sherif Sy, qui a dirigé le CNTS, satisfait de la partition jouée par son institution.
Tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'ensemble des députés ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour examiner et adopter des lois qui doivent normalement impacter sur la vie de nos populations. Nous avons accompli notre mission. Maintenant, elle était positive, négative, etc. Cette appréciation ne nous appartient pas. Nous avons accompli notre mission en toute honnêteté, en toute bonne foi, en donnant plus que le meilleur de nous-mêmes.
Sherif Sy, président du CNT, propos recueilli à Ouagadougou par Issa Napon. Début aujourd'hui au Niger du contrôle du fichier électoral de la présidentielle par l'OIF. 4 experts de l'Organisation internationale de la francophonie sont arrivés hier à Niamey pour des opérations de vérification de ce fichier de 7,5 millions d'électeurs. Ce contrôle a été réclamé par l'opposition avant la présidentielle de février 2016. Au Mali, le bureau des douanes de Niouro a saisi 500 kg de résine de cannabis dans un véhicule en route pour l'Algérie. Les autorités maliennes sont convaincues d'avoir déniché une nouvelle zone de transit dans le trafic des stupéfiants. Le lieutenant-colonel Amadou Konaté est le directeur régional des douanes de Kaye.
Ce sont des bandits armés non identifiés qui sont venus dans les 10 villages du nord de Issé, dans la commune de Mondoro, du côté est de Douanza, en partant vers Gao à 75 km de la route RN16. Ce sont des bandits armés. Ils sont venus enlever. S'ils étaient en train de collaborer avec les forces armées, ils venaient souvent faire la patrouille et ça. Ils sont venus l'enlever, ils sont partis avec lui. Après 2 jours, la troisième nuit, ils l'ont ramené et les tiré à 100 ou 200 mètres du village et enlevé sa tête. C'est ma première fois quand même de voir vis-à-vis. On a enlevé la tête de quelqu'un, si ce n'est pas par le film. Donc ils ont enlevé la tête, sa tête, se mettre dans un sachet et venir accrocher la tête à son hangar, là où il l'avait enlevé. Depuis les événements, quand même, il y a eu des attaques, il y a eu des tueries, mais tuer la personne et enlever la tête de la personne, ça, en réalité, c'est ma première fois d'entendre.
Voilà, erreur de casting, toutes nos excuses. Nous reviendrons donc dans nos prochaines éditions sur l'élément du colonel Amadou Konaté des douanes de Kaye qu'a joint Modibo Dembélé. Le dialogue inter-burundais en Ouganda, les représentants du gouvernement burundais, de l'opposition et de la société civile se sont retrouvés autour du médiateur Yoweri Museveni. Chacun est pratiquement resté sur sa position. La délégation gouvernementale a exclu toute discussion avec le CNARED, coalition de partis politiques et de groupes de la société civile opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Mais pour Frédéric Bamvu Ginurvira, secrétaire général du CNARED, Bujumbura n'a pas d'autre choix.
Vous êtes... J'ai l'impression que le gouvernement de Bujumbura n'entend pas parler du dialogue. En fait, ce sont des gens qui ont évolué dans l'usage de la force. Or, l'usage de la force aujourd'hui n'a pas de mise. Ça veut dire ou bien ils discutent ou bien ils partent. C'est ce que ça signifie. Et le monde devra se lier pour dire, monsieur, on ne peut pas accepter que tu continues à tuer les Burundais, les Burundaises, parce que ce sont les citoyens du monde. Donc le monde doit se liguer contre justement tel comportement. Ou bien il dialogue, ou bien il décide de partir.
Frédéric Banvo Guinumvira, secrétaire général du CNARED, joint à Bruxelles. J-1 pour les élections présidentielles et législatives en Centrafrique. Les patrouilles des forces internationales et centrafricaines ont été renforcées car la sécurité reste l'un des défis majeurs de ce scrutin. Le ministre de la Sécurité, Dominique Saïd Pangidji, est plutôt optimiste.
La population doit aller librement et voter, faire un bon choix pour l'avenir du pays.
Est-ce que pour ce nouveau vote, il sera possible à la population du PK5 d'aller voter sereinement?
Le kilomètre 5 au jour d'aujourd'hui n'est plus le kilomètre 5 de l'avant 13 décembre. C'est vrai, c'est une partie de notre capitale qui revient de très loin. Il y a des raisons pourquoi cela s'est passé comme ça. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est une population à féliciter. Et donc, si le calme est revenu, s'il y a cet engouement de la population à aller librement aux urnes, si cette même population s'est engagée à se démarquer de ces bandits, de ces criminels qui sont nommément connus et recherchés, voilà un acte civique et patriotique à saluer. Et donc, ça nous amène à avoir moins de craintes, moins de soucis pour la gestion sécuritaire dans le 7e arrondissement des scrutins groupés du 30 prochain.
Donc partout sur le territoire centrafricain, le mercredi 30 décembre, les citoyens pourront aller voter sereinement?
Effectivement, sereinement et positivement.
Saïd Pagunji, ministre de la Sécurité de la RCA, au micro de Tatiana Moussou. En Égypte, la police a arrêté hier 4 leaders du mouvement interdit du 6 avril qui fut à la pointe de la révolte populaire de 2011. Il les a placés en détention préventive sous l'accusation d'incitation à la violence, selon une source judiciaire. Cette organisation de jeunes militants laïcs et de gauche, chef de file de la contestation qui chassa le président Hosni Moubarak du pouvoir en janvier 2011, a été interdit par la justice en 2014 et plusieurs de ses dirigeants sont déjà derrière les barreaux.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et la police belge a procédé à l'arrestation de 2 individus soupçonnés de préparer des attaques terroristes à Bruxelles à l'occasion du réveillon du Nouvel An, a annoncé le parquet fédéral de Belgique. 6 interpellations ont été effectuées lors de perquisitions menées à Bruxelles, à Liège et dans une province voisine de la capitale belge dimanche et lundi. 4 des personnes interrogées par les services de sécurité belges ont été remises en liberté selon le parquet. Les forces irakiennes ont confirmé hier à la télévision d'État la libération de la ville de Ramadi aux mains de Daesh depuis juin 2014. Washington, par la voix de son secrétaire d'État John Kerry, a salué la reprise de la ville. Les États-Unis et la coalition internationale qui combattent le groupe État islamique en Irak et en Syrie ont activement contribué à la libération, notamment grâce à un important appui aérien. Et puis ici aux États-Unis même, un jury de Cleveland dans l'État de l'Ohio a décidé de ne pas inculper un policier blanc ayant abattu en novembre 2014 Tammy, un jeune garçon africain-américain de 12 ans qui tenait un pistolet factice. Et dit Sango.
Les jurés n'ont trouvé aucune preuve des conduites criminelles de la part du policier, a annoncé lundi les procureurs de Cleveland, Tim McGinty, clôturant ainsi une année des manifestations d'activistes et des simples citoyens choqués par la vidéo de l'incident. Celle-ci montre les policiers Timothy Loeman tirant sur l'enfant quelques secondes seulement après son arrivée sur les lieux en compagnie d'un collègue à bord de leur voiture des patrouilles. La police avait été alerté sur la présence à cet endroit d'un homme portant une arme à feu. Les autorités découvriront par la suite que ce que le policier a pris pour un pistolet était en fait un jouet. Elles ont aussi constaté que l'embout orange permettant d'identifier les pistolets factices comme étant un jouet avait été ôté, lui donnant l'apparence d'une arme réelle. Des enquêteurs indépendants ont estimé que tout policier raisonnable aurait pris les jouets pour une arme à feu.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé que l'Iran avait accompli l'une des étapes les plus importantes prévues dans l'accord sur son programme nucléaire. Lionel Gaïma.
Selon M. Kerry, ce transfert porte sur un peu plus de 11 tonnes de matériaux et comprend la totalité de l'uranium enrichi à 20% qui n'avait pas encore été assemblé sous forme de plaques de combustible pour le réacteur de recherche de Téhéran. Moscou a confirmé la nouvelle, dit l'AFP, tout comme le chef du programme nucléaire iranien Ali Akbar Salehi. Pour rappel, l'Iran s'est engagé à ne pas détenir plus de 300 kilos de ce matériau lors de l'entrée en vigueur de l'accord de Vienne. Cet accord prévoit la limitation d'une partie de ce programme, en particulier l'enrichissement d'uranium sur une période de 10 à 15 ans. Ces limitations ne concernent pas le développement du parc nucléaire civil iranien. L'Agence internationale de l'énergie atomique déterminera lorsque l'Iran aura rempli toutes ses obligations à la matière, ce qui devait permettre la levée progressive des sanctions économiques imposées par les États-Unis et d'autres pays.
Et l'organisation Reporters sans frontières a recensé dans son dernier rapport, paru aujourd'hui, au moins 67 journalistes tués en 2015 dans l'exercice ou en raison de leurs fonctions. La France est à la troisième place en raison de l'attaque djihadiste du 7 janvier contre la rédaction de l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris. Le bilan établi par RSF fait également état de 54 journalistes retenus en otage à travers le monde. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes et ce sera avec Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.